village de la rue.
Papa, à quoi tu joues ?
Bonjour, je suis Jean.
Salut, moi c'est Arnaud.
Nous sommes en août, mais nous ne sommes pas sortis du cours de tennis et vous écoutez Papa, à quoi tu joues ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Papa, à quoi tu joues, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Nous sommes en mois d'août, c'est le 58e épisode de ce podcast extraordinaire avec moi-même et Arnaud. Bonjour Arnaud.
Salut, salut.
Tu vas bien ?
Je vais bien. J'ai pas la chance d'être en vacances, hein, comme
non, mais c'est bientôt.
Mais
C'est bientôt.
C'est bientôt, ça va pas... Voilà, bientôt.
On va passer au jeu du mois. C'est l'émission d'août, il est donc temps pour moi de vous dévoiler mon jeu de l'été qui est un jeu avec des zombies, enfin presque, dont le second opus a été annoncé à l'eCube, c'est Dying Light. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne l'ai pas encore fini, cela aura peut-être de l'importance hein, dans mon jugement, dans mon futur jugement une fois que je l'aurai fini, mais en tout cas je vous livre en l'état parce que j'y ai joué quand même déjà une bonne vingtaine d'heures. Dying Light, c'est un jeu développé par Techland que l'on avait déjà vu aux commandes de Dead Island, un autre jeu de zombies qu'on a fait tous les deux, Arnaud. Dans Dying Light, nous incarnons un agent du GRE, Kyle Crane, parachuté dans la ville d'Aran en Turquie, ville qui est placée sous quarantaine car le virion, un virus dérivé de la rage, change les humains en zombies. Notre mission est de retrouver un dossier volé par un certain Kadir Suleiman qui pourrait contenir des informations sur la synthèse d'un remède contre le virus. Crane va se faire infecter dès le début du jeu et va devoir lutter pour sa survie et son éventuelle guérison. Le pitch tient presque sur un ticket de métro, mais il est suffisant à développer des intrigues au sein des factions présentes qui sont les traceurs, qui sont a priori hein, les gentils avec lesquels on sympathise, les bandits, qui sont a priori les méchants, hein, avec qui on va sympathiser aussi à un moment, et les sauveurs, qui sont des sortes de passeurs un peu en retrait. Les deux premières factions se disputent des largages d'antizine, un composé qui permet d'empêcher l'infection d'un humain de progresser pendant quelques temps, mais pas d'éliminer le virus. Les bandits sont bien mieux armés en termes d'armes à feu que les traceurs, ce qui n'est pas nécessairement un avantage, on va le voir plus tard. Le GRE, dont dépend Crane, va lui dicter la conduite à tenir pendant que lui va nouer des liens dans l'adversité de la survie avec ceux qui l'ont accueilli et secouru. Forcément, à un moment, il va y avoir de sacrés conflits d'intérêts. Sans être folle, l'histoire tient tout de même la route et permet de se divertir. Les quêtes annexes sont là, mais elles sont suffisamment peu nombreuses pour ne jamais perdre de vue notre objectif principal. On se laisse embarquer, les missions ne ressemblent pas à des quêtes chronopost, hein, et le tout est assez léger pour être consommé sans prise de tête. La particularité de Dying Light, c'est qu'il intègre un cycle jour-nuit, les différents types d'infectés étant évidemment plus nombreux et plus agressifs la nuit, certains plus dangereux encore ne sortent que la nuit. Il est possible de zapper la nuit en allant dormir dans un lit, mais pour cela il faudra d'abord trouver un abri sûr. Le fait de ne pas zapper la nuit permettra de doubler ses points d'expérience en effectuant ses déplacements en ville et en survivant. Mourir fera perdre des points. Si vous voulez donc progresser dans les arbres de talent, il faudra veiller à rester en un seul morceau. Oui, il y a 3 arbres de talent à débloquer au fur et à mesure du jeu selon ses actions, le combat, les quêtes et les déplacements. Et oui, le déplacement Dying Light, c'est un peu comme un Mirror's Edge, un jeu à la première personne dans lequel on fait du parcours, sauf qu'il y a des zombies et c'est beaucoup moins tout blanc. Ça fonctionne très bien, et à chaque action de parcours effectuée, eh bien, la barre d'XP de déplacement augmente pour débloquer des nouvelles aptitudes, donc à chaque branche, sa catégorie d'XP. Une des autres caractéristiques, ce sont les pièges. La ville regorge de pièges pour semer ou massacrer les infectés qui vous suivent. Grilles électrifiées, voitures explosives, projecteurs d'ultraviolet. Ah oui, si certains infectés ne sortent que la nuit, hein, c'est bien pour éviter les ultraviolets et certains y sont très sensibles. Il faudra donc utiliser ces pièges à bon escient. La nuit encore, si le mode online est activé, un autre type d'infecté fera son apparition. Son apparition très agile et mortelle. Il est dirigé en fait par un autre joueur dont le but est d'éradiquer les humains présents. Les humains présents devront, eux, détruire les nids de ces créatures. Donc on peut être jusqu'à 4 joueurs en même temps. La lampe à UV étant là encore un allié précieux mais qui se décharge très très vite. On s'ennuie difficilement dans ce monde ouvert, ou plutôt cette ville ouverte, même si elle est complètement barricadée, que je trouve un peu petite personnellement, mais rien de bien dramatique, hein, rassurez-vous, c'est largement suffisant. Lors de nos crapahutages, on ramasse plein de trucs qui vont vous servir à crafter des armes, et les largages d'antizine, hein, c'est pas que pour le scénario, hein, des largages, il y en a vraiment, et il faut les récupérer avant qu'on se les fasse piquer par la faction des bandits. Les armes ont une durée limitée.
Ah oui. Et si tu les prends pas, qu'est-ce qui se passe?
Non, alors.
Zombification qui continue.
En fait, c'est pas si tu les prends pas, qu'est-ce qui se passe, c'est plutôt si tu les prends, ça va te donner des bonus parce que tu vas les ramener à ta faction et tu vas avoir des récompenses.
D'accord, mais je croyais que tu étais infecté, donc en fait, t'en as besoin.
Oui, oui, tu en as besoin et régulièrement dans le scénario, eh bien, tu vas te faire ta dose d'antizine. Mais ça va d'accord. Aller avec l'histoire en fait.
Ok, donc je te fais pas spoiler.
Non. Bah, enfin, de toute façon, je peux pas spoiler grand chose, je l'ai pas fini. Les armes ont une durée limitée dans le temps. Selon leur rang de qualité, elles pourront être réparées 3, 4 ou 5 fois. Mais au bout de ça, eh bien, c'est fini, elles devront être jetées ou recyclées. Et pourront être améliorées en devenant encore plus létales. À la manière de ce qu'on faisait hein, dans Dead Island, on rajoutait diverses choses sur nos armes pour faire d'un hachoir, par exemple, une arme qui en plus va empoisonner et électrocuter son ennemi. La plupart sont des armes de corps à corps, mais on pourra aussi avoir un arc, des shurikens, des haches de lancer, enfin des hachettes, et des différentes armes à feu. Ces armes ne sont pas forcément très conseillées, car elles font du bruit et attirent les infectés virulents qui sont très rapides et capables de monter sur les bâtiments, comme vous. Des spécimens donc à éviter. Pour moi, Dying Light, c'est un jeu à paquet de chips, comme je peux le reprendre un peu n'importe quand et me faire une petite mission quand j'ai 20 minutes devant moi. Évidemment, quand je joue, il n'y a pas d'enfants aux environs, hein, parce que les têtes éclatent, les bras volent et les corps se découpent joyeusement. Mais le truc, c'est son ambiance. Arnaud, tu te souviens de nos parties de Dead Island ?
Oui.
C'était bien !
C'était bien.
On était acculés comme ça, on essayait de se frayer un chemin.
C'est ça, à travers des zombies qui se levaient, qui couraient, voilà. Tout ça.
Eh bien, j'ai eu le même ressenti, cette ambiance sonore et visuelle oppressante avec ces hordes d'infectés plus ou moins rapides et plus ou moins grandes. On peut les esquiver, mais plus il y en a, plus c'est difficile. Moi, c'est cette ambiance qui me séduit. Ne pas être en sécurité, même quand on l'est, on se dit toujours que cette sécurité est relative et la menace ne vient pas forcément des infectés, mais aussi des bandits qui sont redoutables, voire plus redoutables que les infectés de base. On peut y jouer en coopération également, ce que je n'ai pas essayé, mais il faudra d'abord compter par une petite heure de jeu solo obligatoire avant. J'ai déjà une vingtaine d'heures de jeu et le jeu me dit que je n'ai pas encore atteint la moitié de son histoire. Alors je ne sais pas s'il compte les quêtes annexes ou pas, hein, je suis à 40 et quelques pourcents. Mais clairement, ce jeu que j'ai repoussé maintes et maintes fois parce que j'en avais entendu du bien et que finalement je me disais qu'il y avait certainement mieux à me mettre sous la dent qu'un vulgaire jeu de zombies dans lequel il faut sauter de toit en toit. Ce jeu m'a clairement fait ressurgir d'excellents feelings de Zombie Outbreak et j'ai définitivement envie maintenant de me faire le deuxième épisode. Je suis conscient que je n'en parle pas très bien parce que c'est un peu bordélique hein, à l'image même du chaos provoqué dans cette ville d'Aran, complètement perdue à son sort. Je ne m'attends pas à une fin extraordinaire, mais l'expérience de jeu, quant à elle, est largement suffisante pour me contenter cet été. Et donc voilà, c'est mon jeu paquet de chips de l'été, le jeu que je ne finirai pas
forcément. Est-ce que du coup, t'as dû changer de sous-vêtements quelquefois ou...
Non, c'est pas quelque chose qui fait peur. Alors, tu peux être surpris la nuit parce que tu t'attends pas forcément à avoir des désinfectés là où tu vas, ou alors il y en a un qui te surprend, t'es en train de bidouiller un tableau électrique, et puis pendant le temps que tu bidouilles un tableau électrique ou que t'essayes d'ouvrir un coffre en le crochetant avec un trombone, tu te retournes, et puis du coup y en a un qui est arrivé pendant que tu faisais ton crochetage, parce que quand tu fais ton crochetage, le temps ne s'arrête pas autour de toi, contrairement à d'autres jeux. Donc à part ça, non. Et puis tu peux difficilement être surpris parce que t'as une mini carte sur laquelle apparaît les gros monstres qu'il faut éviter, enfin les gros infectés qu'il faut éviter. C'est pas un jeu qui va te prendre en défaut et te faire des jumpscares à tout va. C'est vraiment un jeu d'aventure dans un contexte bien gore, mais c'est avant tout un jeu d'aventure qui est hyper... avec vraiment l'ambiance de Dead Island, parce que avant que je m'y intéresse, que je fasse la comparaison et que je me dise « Ah bah tiens, c'est les mêmes qui ont fait les deux », j'avais ce sentiment de « Ah mais j'ai déjà vécu ça quelque part », et très vite je suis retombé sur le nom Dead Island, et c'est là que j'ai été voir si c'était bien le même studio qui était à l'origine, et c'est bien Techland qui a fait les deux.
Ouais, mais alors, en tout cas, je suis en train de voir les images, en même temps il a l'air quand même bien joli aussi, bien complet. Mais du coup, même si tu dis que la ville est finalement assez petite, je veux dire, les bâtiments, tout a l'air d'être modélisé. Enfin, je veux dire, tu peux te déplacer dans la ville et dans les bâtiments de la ville. Ou est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont fermés ?
Oui, alors dans les bâtiments, pas forcément. Il y a des bâtiments qui sont ouverts, d'autres qui sont fermés. Hein. Les trois quarts sont fermés, faut pas se leurrer. Mais dans ce que tu vois, il y a aussi une sorte de cache-misère. C'est pas vraiment un cache-misère parce que je dis, la zone de jeu est quand même relativement confortable. Mais moi, moi j'aurais aimé avoir un peu plus grand, pas beaucoup plus grand, mais un peu plus grand. Disons que le sentiment d'avoir une énorme ville à parcourir est bien présent, sauf que dans les faits, cette énorme ville, elle n'est pas si énorme que ça en fait. Ils ont bien réussi à maquiller le truc pour que peu importe où tu vois, tu te dises « Ah dis donc, elle est immense cette ville », mais finalement, tu peux pas aller vraiment partout, mais jamais tu te heurtes vraiment... À un facteur limitant. Jamais tu te dis « Ah, j'aimerais bien aller plus loin, mais il y a ce mur qui m'empêche, etc. » Ça se fait naturellement et tu n'as jamais envie d'aller là où tu ne peux pas aller parce qu'il n'y a rien qui t'attire là-bas. Et donc, c'est plutôt bien fichu.
D'accord. Ok.
Donc, voilà. Bon, c'est cool. Voilà. C'était Dying Light. J'ai oublié d'aller chercher le prix. Il a bien baissé. Il doit être à une trentaine, voire vingtaine d'euros. Et en promo, encore moins. Je vais vérifier ça maintenant et je vous dis ça. Mais bon, voilà, c'est... c'est un bon jeu de l'été. Le truc, c'est qu'avec des enfants, on ne peut pas le faire n'importe quand. Moi, j'évite de le faire en journée. Parce que je sais fatalement que je vais me faire surprendre parce qu'elle va arriver derrière, je l'aurais pas entendu, et puis du coup comme tout bon enfant va arriver au moment où je prends un crâne en deux en me disant bah tiens mais qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu viens de faire, t'as le droit de faire ça, voilà. donc voilà. Bon, tant pis, j'aurais pas le prix, mais maintenant je le dirai plus tard. Mais Arnaud, passons à toi. Le mois dernier, tu nous as dit que tu voulais un autre jeu d'aventure à te mettre sous la main.
Ça. Franchement, God of War était génial, mais il me fallait encore un peu d'aventure. J'avais besoin de
Alors c'est 30 euros Dying Light, c'est bon.
J'avais besoin d'aventure. J'avais besoin d'un truc scénarisé dans lequel je m'éclaterais, qui serait bien fait, tout ça. Et puis. Du coup, j'avais pas eu encore mon quota dans le sang d'aventure. Du coup, je me suis demandé ce qu'on pouvait faire. Et puis, en discutant, je me suis dit, mais j'ai complètement oublié le Uncharted qui était sorti le dernier après le 4. The Lost Legacy. Et je me suis dit, tiens, attends, en plus, il est sorti depuis un moment. Il doit plus être trop cher. Alors, j'ai trouvé sur le PS Store. Alors, du coup, par contre, pareil, je me rappelle plus du prix, mais il me semble que c'était entre 20 et 30 dollars, un truc par là. Et j'ai dit, bon, bah voilà, voilà ce qu'il me fallait. Il me fallait un petit Uncharted tranquillement, que je puisse me détendre et profiter d'une bonne, belle histoire. J'avais vraiment adoré le Uncharted 4. Et je me suis dit, ah bah voilà, je pense que là, ça va être sympa. Et puis. Ça devrait changer, parce que bon, en effet, je savais qu'il n'y avait pas Nathan Drake, mais je me suis dit, bah tiens, ça pouvait être assez sympa finalement d'avoir un.
Ouais, c'est nul, il n'y a que des filles.
Non, c'est pas ça, c'est plutôt de dire, bah tiens, c'est non, le personnage secondaire. Donc, tu sais, ça fait un peu comme quand tu peux lire des bouquins de Heroic Fantasy, etc., et puis tu as des bouquins finalement, je pense notamment aux Chroniques de Condor, où en fait, tu vas avoir des bouquins et des histoires sur des personnages secondaires de l'histoire principale, entre guillemets. Donc, je me dis, bah, tiens, ça va être sympa. C'est pas plus qu'un DLC, c'est un jeu sur un personnage secondaire. Ça va approfondir un peu le champ sur ces histoires. Puis, bon, je veux dire, bon, voilà, Uncharted, c'est normalement gage de qualité, quoi. Surtout qu'il était sorti après le 4. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Je lance ça et la première chose que je me rends compte, c'est que oh, qu'est-ce que j'adore les Uncharted. Il y a vraiment que ça. Quoi. Tu regardes, le visuel est beau, le graphisme, les scènes sont réelles. Enfin, elles ont ce cachet de réalisme. Je trouve ça chouette. Donc tu incarnes tout de suite Chloé. Donc voilà, tu t'immerges tout de suite dans l'histoire. Déjà, tu t'aperçois que bon, on est dans l'Inde, c'est pour le coup, en plus, c'est une religion ou une mythologie que je ne connais absolument pas. Donc, tu sais, bon, en plus, comme ça, j'ai essayé d'apprendre des trucs, ça va être chouette. Donc, je sais pas à quel point ça se tient à la réalité par rapport à la vraie religion hindouisme, d'ailleurs, je crois. Mais bon, dans tous les cas, je me suis dit que j'apprendrai des trucs avec Ganesh, etc. Donc, voilà, je me lance dans ce jeu-là. Ça se passe bien, donc je recommence à reprendre un peu les boutons, puisque ça fait quand même un moment, ça fait quasiment un an et demi même que j'avais pas joué à Uncharted. Donc, tu sais, ne serait-ce que retrouver les commandes, alors comment on se déplace déjà, comment on fait pour se planquer, etc. Donc, tu incarnes Chloé Fraser, et puis au final, tu es dans l'Inde, et puis bah voilà. L'histoire commence comme ça. Donc au début je me disais, mais est-ce que c'est avant ou après le Uncharted 4, je savais pas trop. Et puis bon bah voilà, tu rencontres Nadine Ross et là tu fais ok, donc en fait c'est après. t'as aucun doute là-dessus. C'est bien après parce que du coup je vais pas spoiler non plus la fin de Uncharted 4 pour ceux qui ne l'auraient pas fait, mais ouais. Voilà.
Mais elle aime pas Nathan Drake.
Elle aime pas Nathan Drake. Non, elle aime pas les frères Drake. C'est pas ses potes.
D'accord.
Et au final, avec Chloé, tu t'aperçois que c'est un peu une alliance de circonstances. Que bon bah voilà, Nadine, elle est un peu sur le carreau et que bah elle cherche à rebondir. Chloé lui propose un petit marché, qu'elle accepte. Et puis voilà, donc elle se lance dans l'aventure à deux, mais tu t'aperçois qu'elles sont pas, tu sais, c'est plus partenaires, elles sont pas copines, quoi. C'est vraiment une alliance un peu de circonstances dans la manière dont c'est présenté. Et je trouve que c'est bien fait parce qu'au final, tout au long du jeu, sans être très, tu sais, poussif, tu t'aperçois, tu sais, qu'elles s'apprivoisent l'une l'autre, quoi. Tu voilà, elles sont elles se font pas entièrement confiance, mais que bon voilà, elles finissent par avoir du respect l'une pour l'autre au fur et à mesure que bah voilà, le scénario se déroule, que on continue à jouer, etc. Et je trouve ça bien fait parce que c'est tu sais, c'est pas poussif, quoi. Tu sais, ça t'as vraiment l'impression que ça se déroule de manière naturelle. Les cinématiques sont toujours très chouettes. Alors, ils ont aussi ajouté en plus une fonction téléphone. C'est-à-dire qu'en plus, quand tu balades dans certains endroits, tu vas avoir la possibilité de prendre des photos de paysages à certains endroits. Donc, d'ailleurs, ça a collectionné en même temps que les trucs brillants que tu as au sol partout, là. donc voilà. Donc, tu te retrouves vraiment avec les mêmes outils qu'Uncharted 4. Donc, tu as le grappin, tu as une panoplie d'armes, il faut apprendre à glisser, se balader, etc. Donc voilà. Moi, je me rappelle vraiment avoir la difficulté au premier gunfight, puisque là, je sortais quand même de God of War, hein, où bon, faut pas déconner, faut taper dans le tas. Et puis à Uncharted, non, en fait, il faut plutôt que te planquer plutôt que d'aller comme un barbare. Et là, le premier gunfight a été une vraie horreur pour moi, parce que le temps que je récupère les commandes, je suis pas mort, mais je suis devenu blanc et noir pendant un nombre incalculable de fois. Je sais plus jouer ou quoi. Donc voilà, ça reprend un peu une mise au point au niveau du jeu. Mais au final, c'était. On reprend vite finalement les commandes malgré tout. Et donc, du coup, oui, j'en ai au niveau des gunfights. Donc, comme je disais, toi comme moi, là, je me rappelle nous dire, bon, finalement, le gunfight sont sympas, mais ils sont qu'un moyen. C'est pas vraiment ce qui nous plaît le plus dans Uncharted. Malgré tout, j'ai repris plaisir à certains gunfights parce que t'as vraiment le. Plutôt que d'y aller comme un barbare, tu peux vraiment y aller en douceur et puis les éliminer les uns par autres dans le côté infiltration. Bon, si après tu te fais choper, ça finit en gunfight total partout. Mais. T'as toujours cette possibilité finalement de planquer, de voir par où ils passent, de les choper les uns après les autres. Je trouve que les cartes sont plus ouvertes pour les gunfights, bizarrement, et de fait, ça t'ouvre pas mal de possibilités. Tu peux te planquer, tu peux courir, tu peux. Ça laisse plus le choix à l'improvisation, si tu veux. C'est pas mal fait l'intelligence artificielle, et même si c'est enfin moi j'ai joué en normal, elle est pas non plus excellente. Bon, ils hésitent pas à t'envoyer des grenades quand même, hein. Donc il faut courir. Il y a pas mal des trucs sur lesquels tu planques peuvent être détruits, donc tu peux pas rester statique derrière un bloc. T'as des mecs, ils ont des lance-missiles et tout ça, quoi. Donc c'était rapidement à découvert. Donc, tu reprends un peu l'habitude de tout ça. C'est rien de très compliqué, mais ouais, il faut quand même rester concentré pour ces parties-là. Voilà. Après, autre différence, c'est que j'ai vu de mémoire sur Uncharted 4, tu changeais régulièrement de map. Ça, selon le chapitre, c'était plus restreint. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es sur une immense carte et tu peux aller à certains points. C'est-à-dire que c'est un peu plus ouvert tout en étant plus fermé. Donc bon, voilà, t'as différents points. Le jeu est plus concentré sur la partie sur Uncharted 4 quand on récupère les tours. Je sais pas si tu te rappelles de ce méthode, de ce moment où on a plusieurs tours à aller récupérer
oui,
en voiture.
Oui, à Madagascar.
Et ben là, en fait, la plupart du jeu se base sur cette expérience-là. Donc c'est un poil plus grand. Et c'est ce qui, par contre, fait le défaut du jeu, je trouve, c'est que, de fait, ça le restreint. Je l'ai fini en 10 heures, en un peu moins de 10 heures, en ayant fait quand même la plus grosse quête secondaire où tu récupères un joli bracelet. Donc, toi, c'est un peu... il est joli, hein, ça prend court, un truc, mais... Bizarrement, le scénario est sympa aussi, mais l'histoire paraît plus courte, en fait. Les maps paraissent plus courtes, et... Tu sais, là où par exemple Uncharted ferait un film de 3 heures, et ben là, t'aurais un film d'une heure et demie. Je sais pas comment. Tu sais, j'ai un peu du mal à. T'as les mêmes ficelles, etc. C'est juste que le contenu est un peu plus petit.
Oui, en même temps, c'est ce qui était annoncé. Hein. C'est pas un nouvel épisode complet de Uncharted. Hein.
C'est ça. Bah, c'est en fait, c'est. Et puis, c'est plus grand qu'un DLC. Pour moi, c'est vraiment un hybride entre les deux, en fait. Donc, il ne faut pas s'attendre à un contenu aussi gros qu'un Uncharted 4, etc. Ce n'est pas non plus un petit DLC, puisque c'est une histoire bien développée, un beau scénario, etc. Mais voilà, il faut être conscient que c'est beaucoup plus petit que ce que je m'attendais. Quand j'arrivais là, je suis là, bon, après, il va y avoir un problème, puis ça va m'envoyer plus loin. Ah merde, non, en fait, non, c'est fini. Ah bah merde. Et voilà, donc il y a moins de rebondissements qu'on pourrait en attendre avec le Uncharted 4. Bon, après, du coup, ça le rend plus réel dans le sens où ils partent pas à travers le monde, l'histoire est telle qu'elle est. Hein. Voilà, donc on s'enrichit de Stein. Les paysages sont à couper le souffle. Les deux statues, à un moment, t'es vraiment en train de te balader dessus. C'est vraiment joli. Ce que j'adore aussi avec l'Uncharted, c'est que t'es avec ta petite voiture là, tu vois au loin, tu vois la tour loin, et bah t'y vas. Tout est fait. En fait, tu peux vraiment y aller et puis tu finis par monter à la tour. Les distances sont respectées, ça paraît loin, et puis bah c'est loin, mais tu peux y aller quand même. Donc c'est ça que j'adore dans l'Uncharted 4, c'est que voilà, c'est vraiment cette. La possibilité de voyager dans ce dans les maps, quoi, qui sont pas infinies, hein, soit dit en passant. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Encore une fois, c'est pas un jeu entier. 10 heures de jeu, ça me paraît quand même assez réduit. Donc, d'occasion, le jeu me paraît parfait. Ça permet d'avoir une histoire. Je ne vais pas spoiler, hein, je rentre pas dans le détail du jeu. Il y aura un autre personnage secondaire que je ne dévoilerai pas, mais qui arrive parfaitement au bon moment. Je trouve ça génial. Et voilà, c'est finalement concentré sur l'histoire. On a une vraie empathie pour ces deux jeunes femmes qui, j'allais dire, j'ai le terme anglais, c'est qui casse, quoi. et je trouve ça bien fait. Quoi. C'est, elles sont, elles en veulent, elles ont la niaque, et puis c'est, ouais, non, ça, c'est. C'est vrai, voilà. C'est encore une fois un film dont on est le héros. Moi, c'est comme ça que j'aborde ce genre de jeu à chaque fois. Et j'adore ça. C'est vraiment, j'adore ce type de jeu. Et pour un été pluvieux, en deux soirs ou trois soirs, c'est réglé. Et après, je dirais. Ça reste, les gunfights restent violents, hein. On peut faire des tirs à la tête, etc. Bon, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de jambes qui giclent, etc. Donc, je trouve que pour le coup, je trouve pas ça beaucoup plus violent que ce que pourrait faire un film d'action. Et voilà, suivre cette histoire de deux femmes qui sont à la recherche d'un artefact, la corne de c'est pas la corne de Ganesh, c'est la défense de Ganesh. Et je trouve ça chouette là, sur un background de révolution au niveau de l'Inde. Non, c'est chouette. Moi, j'ai vraiment aimé. Par contre, voilà, ça vaut pas un 70 euros ou un 70 $. Je sais pas combien il serait en France. C'est un truc à prendre de case. C'est un truc à faire en famille.
Ah, parce qu'il est à 60.
Je sais pas combien il est sorti. Moi, je l'ai pris entre 20 et 30 $, je crois.
Oui, non, mais je pense que c'est le prix. Je pense qu'il était à 30 euros lors de sa sortie.
Ah, dans sa sortie, bah, du coup, ça paraît tout à fait logique, quoi. C'est logique par rapport au contenu.
Ouais.
Et ma foi, c'est juste sympa, quoi. C'est un bon moment. Ouais. Moi, j'ai passé un agréable moment avec. Il y a juste un petit goût de trop peu, quoi.
Ok. Eh bien, on vous a proposé donc Dying Light et Uncharted Lost Legacy. Alors, Dying Light, c'est sur Windows et console, PS4 et Xbox One. Et Uncharted, c'est évidemment sur PlayStation 4 exclusivement. Voilà. Voilà qui nous emmène à la fin de cette émission 58, plus que deux et nous serons à l'émission 60, alors ça sera quand ? Ça sera au mois d'octobre, l'épisode juste avant l'épisode anniversaire des 5 ans, oui c'est ça. Voilà, en attendant... eh bien, vous pouvez toujours nous retrouver sur papapodcast.fr avec toutes les notes de l'émission, avec les liens, les liens des articles qui sont évidemment mis dans les notes. Vous pouvez réagir à l'émission dans les commentaires, hein, pareil sur le site, ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Google+, et Twitter, sachant que c'est Twitter que je regarde le plus. Vous nous retrouvez sur iTunes, sur earth10.at, c'est là où on est hébergé. Le mois prochain, eh bien, on sera en septembre, ce sera la rentrée. Alors, il va se passer pas mal de choses au mois d'août. Normalement, si ce n'est pas à la fin août, ce sera en début septembre, mais je sors un épisode hors série sur la parentalité. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est quelque chose que je prépare depuis très longtemps. Voilà, c'est... Alors, j'espère que ça va être réussi, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui est en projet depuis un an presque. J'espère que ça va vous plaire. Il y aura aussi au cours du mois d'août. Le papa à quoi on joue, le papa à quoi on joue, et il y a des annonces qui risquent d'être faites, donc soit au mois d'août, soit au mois d'août pour les tipeurs, c'est quasiment certain. Et pour le reste du public, ce sera au mois de septembre.
Teasing.
Ouais, teasing. Le podcast va essayer d'évoluer, va essayer de fonctionner différemment. Il va y avoir de la réorganisation dans l'air. Donc les tipeurs, surveillez bien votre boîte aux lettres, votre boîte mail, parce que vous avez les infos dans votre boîte mail. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous souhaite une bonne fin d'été, que ce mois d'août vous soit doux et que vous puissiez jouer au maximum, que ce soit avec vos enfants ou tout seul parce que vous êtes resté à la maison pendant que votre conjoint ou conjointe est parti avec les enfants dans la belle famille et que vous ne supportez pas votre belle famille. Donc, amusez-vous en tout cas et puis jouez bien et faites un bisou à vos loulous. Ciao à tous.
Ciao à tous.